Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rendez-vous sous les étoiles sur CFM Rhodes, un programme mensuel en partenariat avec le réseau Cap Étoile. Et le réseau Cap Étoile, c'est son créateur et son animateur. Avec moi tous les mois dans les studios, Thierry Limoges. Bonjour Thierry.
Bonjour David, ravi d'être là.
Eh ben écoute, très content de te retrouver dans nos studios, même si là on n'est pas vraiment sous les étoiles, on est plutôt sous les... même pas projecteurs, je sais pas ce que c'est, sous les lampes de la radio. En revanche, ouais, là moi juin propice à voir plein de belles choses dans le ciel. A priori, le mois de juin est découvert et on va en parler. Hein,
de bah, ça commence à être sympa. La météo s'améliore grandement.
Voilà, tout le monde a envie
de mettre le nez dehors. Donc voilà.
Croisons les doigts. Hein, parce qu'il y a plein de choses à voir et c'est ce que tu vas nous dire en fin d'émission. Au programme de ce numéro de juin de Rendez-vous à Sous les Étoiles sur CFM Rhodes. Avec toi, Thierry, on va s'intéresser aux stations spatiales. Le grand titre de cette émission, c'est « Vivre dans l'espace ».
Ben oui, il va falloir s'y préparer, à mon avis.
Ouais, pour nous, c'est peut-être un peu râpé.
Alors, pour nous, c'est râpé.
Non, mais... enfin bon, on va pas commencer sur une note.
Comme les scientifiques, pensons aux générations futures.
Voilà. Pour les plus jeunes, dans tous les cas, ça sera une possibilité, même si c'est déjà une réalité, pour certains vénards de multiples nationalités.
Tout à fait.
On va commencer par un petit point sur l'actualité, parce que vivre dans l'espace... Alors, je ne fais pas référence, là, il y a quelques semaines, il y a Donald J. Trump qui a permis que la NASA diffuse plein de vidéos d'OVNI. T'as vu ou pas?
Attends,
t'as vu, il n'y a pas que tout dans l'espace.
J'ai vu.
Hein, donc il y en a déjà d'autres qui vivent depuis un petit moment, apparemment, mais l'actualité, c'est aussi des humains dans l'espace ces dernières semaines, ces derniers mois. Non, tu ne prends pas au sérieux Donald Trump.
Alors, cette information-là, je la prends pas au sérieux. Après qu'il y ait de la vie et voire des autres formes de vie qui vivent dans l'espace, moi j'espère ça de tout mon cœur. Les probabilités sont variables selon comment on regarde les choses. Donc, pour l'instant, on n'a vu personne.
Non, à part ces Américains, ces Allemands, ces Français, ces Chinois là, qui de temps en temps, ils viennent. Mais enfin, des fois, ils restent longtemps dans l'espace. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs vu. Et que certains ont vécu ces dernières semaines, ces derniers mois.
Oui, là, c'est vrai qu'il y a une actualité, ça vaut le coup de faire un petit point, parce qu'il y a une actualité d'abord européenne et même française.
Ah oui.
Puisqu'on a notre spationaute, notre 11e spationaute française, Sophie Adenau, qui est partie en mission dans la station spatiale.
Et alors, on en parle moins que Thomas Pesquet à l'époque. Lui, c'était tous les jours. Je mange un burger, j'ouvre la fenêtre. Ah non, j'ouvre pas la fenêtre. Je fais des pompes. Sophie Adenau, à part le premier jour, bon, bah, c'est bon, elle est. Moi, j'ai pas de nouvelles.
Si. Eh ben alors, si.
Ah bon.
Il y a une petite pastille tous les jours, au moins sur les réseaux sociaux.
Ah, d'accord.
Notamment sur Instagram ou sur le site de l'ESA, donc l'Agence européenne, spatiale européenne. Mm-hmm. Et il y a une petite pastille tous les jours des expériences qu'elle fait à bord. Alors, c'est souvent très, très ludique.
Ah, je voulais le dire chiant.
Mais non, c'est très ludique, très drôle. Okay. Elle présente malgré tout des expériences physiques.
Oui.
Qu'on ne peut réaliser que dans l'espace.
Et elle
explique les mécanismes, pourquoi une bulle flotte, pourquoi la station spatiale tient bien stable et ne tourne pas dans tous les sens. Donc il y a des petites pastilles comme ça quotidiennes. Et les enfants que je visite régulièrement dans les écoles mènent des observations justement de ces pastilles avec leurs enseignants.
Ah,
et leurs
c'est
enseignantes.
Bien ça. Ah, ça m'aurait plu, moi, d'avoir ça.
Et c'est génial. Et puis, je pense que comme Thomas Pesquet, il me semble que ça n'a pas encore été fait, mais comme avec Thomas Pesquet, il va y avoir des liaisons en direct qui vont être mises en place avec les écoles.
Que les écoles Moi, je lui demanderais bien si elle n'a pas vu un OVNI.
Ouais, ben non, mais on lui demandera quand
elle
va revenir.
On lui demandera,
Tout à fait. Donc en tout cas, elle n'est pas partie que pour s'amuser.
Non, on dirait pas, mais elle bosse.
Elle est partie. Alors elle a une mission assez longue d'ailleurs par rapport à Thomas Pesquet, qui est parti deux fois six mois, mais elle part pour l'instant la première fois 9 mois.
Ouais, non.
Donc c'est quand même assez long. Hein. En général, les missions sont plutôt 6 mois pour. Parce que justement, le problème dans l'espace, c'est d'adapter le corps humain à la vie dans l'espace.
Elle va revenir tout atrophié.
Du tout prévu pour ça, nous, à l'origine. Donc, les astronautes, spationautes, c'est la même chose. Je ferai juste un petit point de vocabulaire. Mm-hmm. Quand on parle d'astronautes, spationautes, taïkonautes...
Cosmonautes,
tout ça, c'est la même chose. C'est simplement, tout dépend du pays... duquel on vient.
Quand
on est astronaute, on est américain. Quand on est spationaute, on est européen. Mm-hmm. Quand on est cosmonaute, on est russe.
Ouais.
Et quand on est taïkonaute, on est chinois.
Ouais. Reste à venir l'Afrique Et le Moyen-Orient,
pour l'instant, voilà, c'est les seuls peuples qu'on voit pour l'instant.
Pour l'instant.
C'est ces quatre-là. Mais
tout le monde y bosse.
Donc, Sophie Adenau, 11e spationaute française, donc, a pris la suite de Thomas Pesquet, qui n'est pas à la retraite, hein, il est toujours en activité. Et il se prépare activement, il s'entraîne d'ailleurs parce qu'il espère bien faire partie des missions lunaires.
Voilà.
Qui ne manqueront pas d'avoir lieu dans les années qui viennent.
Voilà, c'est dire ce qu'on dit, tous les ans, c'est repoussé de 2 ans, mais enfin bon, ça finira bien.
Donc il s'entraîne toujours. Hein, on en entend moins parler, mais il est toujours présent.
Il garde la forme. Oui, Mars, il a laissé tomber. Il dit je veux plus y aller, laisse tomber. J'ai compris, j'ai regardé, c'est pas la peine.
Ouais, non. Mais en attendant, Sophie Adenau, elle, par contre, elle est en pleine activité. Oui. Elle a quand même un projet prévu de 200 expériences à mener en 9 mois.
Ouais, bah 200.
Donc c'est pas rien. Oui. C'est pas rien. C'est-à-dire tous les jours, il y a beaucoup de travail.
Après, si c'est soufflé dans un truc à bulles, moi, ça fait une expérience, bon, c'est pas...
Alors ça, je t'ai dit, c'est la partie rigolote.
Ah ouais, mais enfin, ça fait une expérience.
Après, il y a du sérieux, on y reviendra tout à l'heure, mais dans les stations spatiales, évidemment, il se passe pas mal de choses. Mm-hmm. Donc tout va bien et on peut suivre son actualité donc régulièrement.
D'accord, les images doivent être belles quand même.
Voilà.
Elle se filme pas que elle.
Bah, elle continue, elle continue comme tous, de faire des photos, d'observer la Terre et puis...
Là, elle doit bien voir le machin à Hormuz.
Il y a même une vidéo assez émouvante où justement, elle regarde la Terre et les larmes viennent très vite aux yeux parce que, une fois de plus, quand on voit cette petite planète sur laquelle on vit, si fragile et qu'on la voit de loin,
ça fait
comme disait
un
astronaute américain il y a bien longtemps, quand il est parti sur la Lune, il disait on aurait dû envoyer tous nos hommes politiques dirigeants de la Terre plutôt que nous. Et on vivrait peut-être dans un monde plus en paix.
Bah, c'est peut-être pas faux. Quoique, je ne suis pas sûr non plus. Mais enfin, bon, en tout cas, ça se tente.
Voilà, ça se tente.
Puis un accident ici.
Donc, Sophie Adenau, pour l'instant, il est dans la station spatiale. Thomas Pesquet s'entraîne en vue des missions lunaires, puisque la deuxième actualité, ça a quand même été le retour vers la Lune. Réussi par des êtres humains, l'émission Artemis.
Le mois dernier, un truc comme ça.
Voilà, exactement.
Ils ont fait le tour de la Lune.
Ils sont partis 9 jours du 1er au 10 avril autour de la Lune, alors sans s'y poser, je précise bien.
Parce que c'est jamais
très très clair.
C'était pas prévu.
Pour les gens qui n'ont pas suivi ça de près, on est reparti dans un premier temps faire le tour de la Lune pour tester tous les appareils de vie des astronautes. Donc, si c'est pas le tout d'envoyer des gens, il faut les ramener en vie.
Ouais, c'est mieux.
Donc, il y a énormément de contraintes dans l'espace. Déjà, il faut emmener de quoi boire, respirer et manger.
Déjà.
La base, se protéger des radiations solaires. Enfin, voilà, il y a énormément de systèmes, comme on dit, à tester.
On rappelle quand même que là, ils l'ont fait le mois dernier. Mais en 69, quand ils sont allés sur la Lune, tout ça, ils l'avaient déjà fait. Donc, je ne vois pas ce qui a changé depuis. Mais bon, on teste quand même.
Oui, parce que tout a changé, en fait.
À l'espace, non.
Les moteurs ont changé. C'est la technologie qui a changé.
Voilà, d'accord.
Donc, effectivement, il faut tout retester. Ouais, là, ils partent à 4 au lieu de 3. Ça fait une sacrée différence malgré tout.
Bah, ça fait un de plus. Ça dépend comment il est.
Parce
qu'après, il y a aussi tout le côté. Il faut se supporter dans 5 mètres carrés à 4.
Ça fait partie des multiples problèmes à résoudre. Ça sera d'ailleurs un des problèmes majeurs. Il y en aura d'autres, mais à résoudre si on veut aller un jour sur Mars.
Parce que là,
on parle d'un voyage de 9 jours pour aller vers la Lune et en revenir sans s'arrêter. Même si on s'arrête et qu'on travaille, 3-4 jours sur la Lune, voilà, on va partir, une petite quinzaine.
L'équivalent de vacances foireuses.
Donc c'est extrêmement simple. Par contre, quand on partira sur Mars, on a déjà parlé dans une précédente émission, le voyage aller-retour plus le temps de travail sur place, c'est à peu près 3 ans.
Le temps d'un mariage.
Donc,
tu vois, t'as qu'à voir. Même dans les mariages, ils choisissent.
Je ne sais pas, je ne suis pas marié.
Moi non plus.
Okay, donc, en tout cas, cette mission, c'est parfaitement déroulée.
Ah.
Il n'y a eu aucun accro, heureusement, tout le monde est revenu vivant. La mission s'est parfaitement déroulée.
Écoute, c'est bien.
Ils sont quand même approchés à 130 km de la surface.
Voir ça de près.
Ils ont pu déjà faire quelques études, faire un petit peu de géologie, même à distance, parce qu'avec les petits télescopes embarqués, les appareils photo embarqués, on peut faire des mesures assez précises. Notamment, ils ont cartographié un peu plus précisément la surface dite cachée, celle qu'on ne voit jamais.
Mais là, ils n'avaient qu'à demander aux Chinois. Ils sont allés
Chinois, ils vont, mais n'ont pas forcément cartographié.
Un niveau appareil photo, c'est les meilleurs.
Ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de
problème. À mon avis, ils ont des bonnes photos.
Donc voilà, ils se sont fait cette grande balade. Et puis, bah, les prochaines. Alors, le calendrier a un petit peu changé. Puisque normalement, après ce vol, le vol suivant, ça devait être le vol qui posait de nouveau des humains sur la Lune.
Ouais, non, mais moi, force.
Ça a été un petit peu modifié. Voilà. Ils se sont rendus compte que c'était un peu ambitieux et qu'il fallait quand même faire comme les missions Apollo il y a plus de 50 ans.
Ouais.
Faire quand même quelques essais supplémentaires. Pour aller sur la Lune, il faut évidemment une capsule qui emmène les gens sur la Lune et qui les ramène. Mais il y a une deuxième machine. Qu'est-ce qu'on appelle un atterrisseur.
Ah bah comme le LEM
doit, comme le LEM à l'époque des missions Apollo, qu'on doit emporter, qui doit se détacher de la capsule pour aller poser les astronautes sur la Lune, qui doit redécoller de la Lune, de nouveau s'arrimer à la capsule, transporter tout le monde et ramener cette capsule vers la Terre.
Je suis d'accord.
Mais donc il y a une mission, il y a une étape supplémentaire qui va devoir falloir
tout faire à vide ou avec un chien
faire s'entraîner avant à cet arrimage des arrimages autour de la Terre.
Sauf que pareil en 69, il n'y a pas eu d'accident.
Non.
Et à ma connaissance, le LEM, c'était la première fois, c'était la bonne. Hein. Ils n'ont pas fait un test avant. Allez les mecs, allez.
Alors si, ils ont fait plein de tests avant.
De la capsule LEM qui se pose et qui remonte.
Ouais, ils ont fait des tests. Ils ont fait des tests d'abord sur Terre.
Ah ouais, non mais ça va.
Avec le LEM.
Si tu veux, toi tu fais le LEM, moi je fais l'astronaute, et on le fait dans la rue à bébé sous. Hein.
Le LEM, faut le piloter, donc c'est important.
Ouais.
Et puis ensuite, il y a eu, ils ont fait des trucs terribles. Même le plus terrible, c'était la mission précédente. D'Apollo 11, la fameuse mission, la première mission qui s'est posée, la mission Apollo 10, où ils ont simulé la totalité de la manœuvre jusqu'à décrocher le LEM, le faire descendre vers la surface.
Ah, quand même, d'accord, ok.
Et sauf que là, les gars étaient en route vers la Lune, et non, mais ça faisait partie de l'obligation. Ils testaient la descente, ça s'est bien passé, et à quelques kilomètres au-dessus de la surface, on les a fait remonter, se raccrocher et rentrer sur Terre.
D'accord, ah ouais, bon.
Donc eux, pour eux, c'était pas sympa.
Bah, ils étaient prévenus quand même que c'était une
Bien sûr, ils étaient prévenus.
Ils ont dû être dégoûtés. Allez, pourvu que ça merde et qu'on se crache, et qu'on se pose quand même.
Donc tu vois qu'il y a eu, il y a eu énormément de missions d'entraînement avant Apollo 11. Il y en a eu 10. Hein. donc là, finalement, voilà, il y a quelques missions qui vont se rajouter et il y a une date annoncée entre 2028 et 2030 pour l'alunissage de nouveau.
Avec quelqu'un dedans ?
Toujours à prendre avec des pincettes. Ah oui, à partir de maintenant, ça sera que des missions humaines.
Ok, donc 2028-2030, on va dire 2030-2035.
Grosso modo, c'est ce que je pense.
Et encore,
voilà.
On espère.
Et entre-temps, on surveillera les Chinois, comme d'habitude.
Ah bah, parce qu'à mon avis, eux, ils vont nous passer. Ça va être l'hiver qu'ils seront avant. Hein.
C'est pas grave.
Ah bah, non, c'est pas grave, t'as bien raison. Tout à fait, c'est pas du tout grave. Non mais ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Très bien, donc on va suivre tout ça, évidemment. Donc après Artemis 2 et Artemis 3, rien à voir.
Après, oui, c'est ça, c'est ça va suivre 3, 4. Normalement, Artemis 4, c'est la mission qui est prévue pour l'alunissage.
Ok.
À voir s'il n'y a pas de modification.
Bon, il y en aura sûrement. Mais bon, écoute, hein, c'est normal. Oui, voyage dans l'espace, alunissage, prévu, organisé. Et le moyen de travailler tout ça, de s'y préparer, c'est de vivre dans l'espace. Pas besoin forcément d'aller jusqu'à la Lune, déjà pour avoir des sensations et se rendre compte que c'est, wow, c'est chaud, quoi. Il y a des bases spatiales qui existent, alors elles ne servent pas qu'à ça. Qui ont même carrément, là on parlait d'Apollo 11, la première base spatiale, je ne sais pas de quand elle date, mais ça ne doit pas être beaucoup
alors,
plus...
Alors les stations spatiales, alors la première c'était la station Mir.
Ah oui, je me souviens.
Ouais, c'était les Russes qui ont envoyé la première station spatiale qui était en orbite en 1986.
Ouais, c'est ça, années 80, dans ma mémoire.
Voilà, donc ça ne date, date pas d'hier.
40 ans.
Ça ne date pas d'hier.
40 ans. Et mais il n'y a pas eu, comment il s'appelait, le couturier là, c'est Paco Rabanne qui nous disait qu'elle allait tomber je ne sais pas où.
Bah, quand elle a été désorbitée en fin de vie, puisque les stations spatiales ont une durée de vie quand même limitée.
Bah, nous aussi.
Donc en 99, en plus, ça fait une date symbolique.
Ah voilà, il y avait ça. C'était l'an 2000, tout le bazar.
Et Paco Rabanne, effectivement, a fait la prédiction que cette station allait s'écraser et tuer plein de monde.
Ouais.
Et il avait dit que si ça n'arrivait pas, on n'entendrait plus jamais parler de lui.
Ce qui était
pour
le
les
cas.
Prédictions. Et il a tenu parole.
Non, on rigole pas parce que respect au grand couturier de mémoire.
Donc la station Mir, effectivement, c'était la première station spatiale parce que très vite on s'est rendu compte que effectivement, il fallait, si on voulait aller au-delà de la Lune, faut pas perdre de vue que globalement, l'humanité n'a pas un avenir définitif sur Terre, si toutefois tout se passe bien.
Voilà, même dans le meilleur des cas, c'est pas terrible.
Entre les peuples, soyons positifs. Ouais, ouais, ouais. Si tout se passe bien sur Terre et qu'on arrive à s'entendre suffisamment longtemps, on sait que le Soleil n'est pas une étoile éternelle, que le Soleil va s'éteindre un jour et que la vie sur Terre sera plus possible, pour faire un résumé extrêmement court des choses. On a du temps devant nous, mais pas tant que ça, parce que le développement, on s'en aperçoit, est quand même très long.
Ben oui.
Et que si on doit partir un jour, déménager ce qui restera de l'humanité terrestre vers une autre planète ou une autre Terre, il faudra non seulement beaucoup de vaisseaux, des vaisseaux très puissants, très rapides, puisque les étoiles sont des distances, pour l'instant, infranchissables dans l'état actuel de nos technologies. Mais tout se prépare.
Mais oui, parce qu'il y a des choses qui semblaient impossibles.
Les scientifiques, il ne faut pas perdre de vue que les scientifiques travaillent souvent pour l'avenir d'une manière générale.
Ah oui.
Donc,
même lointain.
Même très très lointain.
Bon, puis après, j'imagine
ces missions en font partie. Voilà. Hein.
Ouais, puis après, il y a c'est tous ces trucs-là. Moi, je veux bien que les Russes, les Américains, les Chinois, ils pensent à 2 millions d'années dans le futur. Mais bon, il y a aussi des intérêts beaucoup plus pratiques, beaucoup plus à court terme.
Oui, voilà. L'intérêt de la station spatiale Mir, donc, qui était la première station, par parenthèse, dont la maquette est visible à la Cité de l'Espace de Toulouse,
d'accord,
l'échelle 1.
Ah, d'accord. Donc, c'est grand comment ?
Donc, on peut rentrer dedans.
Ouais, par rapport au studio.
C'est beaucoup, beaucoup plus grand.
Ah, c'est plus grand ?
Oui.
Mais sans compter les antennes, hein, juste la partie où on est dedans, quoi.
Juste la partie, la petite pièce où on est dedans, il y a l'équivalent de deux studios.
Ah ouais, donc c'était, c'est pas...
Ça va.
C'était pas comme Artemis, où ils étaient à quatre dans une boîte de
conserve.
C'est
des petits tubes qui sont mis bout à bout, très intéressant.
D'accord.
Et puis, effectivement, c'est vrai que le fond de cette base, c'était d'occuper l'espace de manière permanente avant les Américains.
Eh ouais.
Donc c'était très politique. Les Russes venaient de perdre la course à la Lune. Donc tout de suite, ils ont enclenché ce projet de station spatiale. Et effectivement, ils étaient présents avant les Américains. Ils ont donc obligé pendant des années les Américains à payer leurs billets pour pouvoir aller dans l'espace, travailler et expérimenter la vie dans l'espace.
Et nous aussi, d'ailleurs, on y est parlé. Il n'y a pas un Français qui est allé dans... Même plusieurs qui sont allés dans Mir.
Oui. Mais c'était surtout la bataille américano-russe à l'époque. Des Français, bien sûr. André Dehaye, Jean-Pierre Ennoret. Enfin, il y en a eu plein. Jean-François Clairvoyant.
Ok.
Tous les premiers corps des spationautes sont partis dans la station Mir jusqu'à la construction de l'ISS.
Alors voilà, ça c'est celle qui est encore actuellement en l'air.
Exactement.
Où il y a Sophie Adonau.
Dans laquelle il y a Sophie Adonau, dans laquelle il y a eu Thomas Pesquet. Ah.
Et celle-là, elle date de quand ? C'est quand est-ce qu'ils ont commencé ? On a commencé à se mettre dedans ?
La station spatiale, l'ISS, elle est occupée depuis 25 ans environ. J'ai plus la date exacte en tête. Mais
ça a fait vraiment la transition avec Mir, quoi.
Oui, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à la construire. Alors, à la construire au début, c'est des modules qu'on assemble un par un.
Ouais.
Évidemment, il faut que ça tienne dans une fusée les lancer dans l'espace. Une station spatiale qui est composée de 10 modules, il faut diffuser pour les envoyer dans l'espace. Et immédiatement, dès qu'il y a eu un module qui a été envoyé, c'était un module de vie qui a été très vite occupé.
Tout de suite, on a mis quelqu'un dedans.
De manière permanente.
D'accord.
À l'époque, il y avait trois astronautes, je crois, qui étaient dedans. Maintenant, on peut monter jusqu'à 9 personnes.
En même temps ?
En même temps,
ça commence à être...
Il y a un partage des plannings, mais il y a...
L'ISS
actuel, avec les panneaux solaires, évidemment, qui prennent beaucoup de place, c'est l'équivalent de 2 terrains de foot en taille. Hein.
Ah ouais, ça commence à...
Si vous allez à la station de l'espace...
ils n'ont pas la place.
À la Cité de l'espace, voir la station Mir, l'ISS d'aujourd'hui, c'est à peu près 4 fois plus grand.
Ouais, donc on n'est pas prêt de l'avoir à l'échelle 1, machin de l'espace à Toulouse.
Malheureusement, c'est pas prévu. Après, je ne suis pas dans les petits papiers.
Moi non plus, mais Toulouse, il faut qu'ils agrandissent.
Il va falloir qu'ils agrandissent le terrain.
Un sacré bout de terrain. Juste là, tu m'as dit, donc depuis à peu près 2000, là, quand elle a été... mise en service, cette station, l'ISS, la station
ISS,
spatiale américaine, grosso modo. Hein. Donc depuis, il y a toujours eu au moins dedans un ou plusieurs astronautes, cosmonautes.
Voilà, il n'y a jamais eu moins de 3 personnes dedans.
Il y a toujours quelqu'un.
Toujours quelqu'un. Elle
jamais
est occupée en permanence parce que tout bêtement, ne serait-ce que pour les missions de maintenance.
Ah ouais.
Voilà, c'est quand même un gros engin dont il faut s'occuper, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Oui, oui.
Quand on est dans l'espace, ça fait partie des contraintes spatiales, on souffre de beaucoup de choses, notamment du rayonnement solaire. Qui est très intense, et là il n'y a pas d'atmosphère qui protège puisqu'on est au-dessus de l'atmosphère de la Terre.
Et oui.
Donc le rayonnement solaire use très très vite les matériaux.
Ah ouais.
Ça fait d'ailleurs partie des dans le domaine de recherche et d'avancée spatiale, l'étude des matériaux. Énormément de matériaux sont développés pour l'espace, ouais. avec des résistances nettement supérieures à celles qu'on a sur Terre. Ouais. Par exemple, pour des problèmes de température et de radiation.
Ça va du super froid au super chaud.
Exactement. Mais quand on est au-dessus de l'atmosphère, en plein soleil, juste au-dessus de la Terre, hein, pas très loin, puisqu'ils sont à 400 km, c'est la porte à côté.
Oui.
En plein soleil, au-dessus de l'atmosphère, il fait 150 degrés.
Voilà.
Quand on passe à l'ombre, c'est-à-dire côté nuit de la Terre, il fait moins 150 degrés.
Voilà, donc il faut des matériaux qui supportent le
passage. Et une station spatiale à la vitesse à laquelle elle tourne, ça se passe toutes les heures et demie, ça.
Eh oui.
Elle fait le tour de la Terre en 1h30, la station spatiale.
Eh oui.
Elle est en orbite à 40 000 km à l'heure.
Oui, t'as raison. Donc oui, on se rend compte que oui.
Donc évidemment, ça fait beaucoup. Ah, pardon, à 25 000 km/h, excusez-moi, je confonds avec la vitesse pour aller vers la Lune.
D'accord.
28 000 exactement km/h. Donc les matériaux sont soumis en permanence à ces changements de température, aux radiations solaires. Je passe les météorites qui viennent et les petites poussières qui viennent percuter la station spatiale en permanence.
Ah, parce que alors moi, c'est une des questions. Tu nous dis que ça percute en permanence ?
Bah, y a l'espace n'est pas vide.
Bah non, mais justement, je pensais que même un truc de la taille de même pas une pelure d'ongle à 28 000 km/h, c'est pire qu'une balle.
Ça peut faire des trous.
Voilà, alors donc je me disais, mais comment ils font pour que jamais ils s'en prennent une ?
Non, alors ils s'en prennent.
Ah bon, d'accord.
Ils s'en prennent, ça fait partie de la maintenance. Il y a des appareils qui sont endommagés régulièrement, qu'il faut changer.
Ouais.
Des panneaux solaires qu'il faut réparer, qu'il faut parfois changer.
Ouais.
Donc la station spatiale avance dans une certaine position pour avoir un minimum de surface exposée à tout ça.
Ouais.
Donc sur sa face avant, j'allais dire sur son pare-brise sorte, pour vulgariser la chose.
Ouais, ouais.
Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis la Terre, on est capable de surveiller les débris spatiaux qui sont de l'ordre de, j'allais dire, entre 5 et 10 cm.
Bravo.
Ce qui est quand même une performance.
Ce qui est bien. Mais enfin, même à 3 cm, là, tu ne le vois pas venir, t'es mal quand même.
Alors,
à 28 000 km.
Voilà. Donc, tout ce qui est, tout ce qui est en avant, j'allais dire, de la station, donc dans le sens de, de son avancée, est surprotégé, blindé, les vitres mesurent, de mémoire, une trentaine de centimètres d'épaisseur.
D'accord.
Voilà, pour pouvoir absorber un maximum de choc.
C'est quand même chaud, ils ne sont pas à l'abri d'un
Mais ils ne sont pas à l'abri d'un gros impact.
Un souci.
Non, non, ça fait partie des. C'est pas un métier pas dangereux.
Ah bah non. Même quand
je le disais en début d'émission, les humains et notre technologie n'est pas conçue pour vivre dans l'espace à l'heure actuelle.
Pas encore.
Mais donc les stations spatiales servent à travailler tout ça, à faire progresser notamment la technologie et tout le côté médical dont on peut parler un petit peu aussi. Parce que nous, êtres humains, on est bien sur Terre, on est bien attiré par la Terre, donc soumis à la gravité terrestre de l'oxygène autour de nous. On ne se pose pas la question, mais c'est notre quotidien. Dès qu'on va dans l'espace, tout ça, on n'y a plus droit.
Eh bien oui, ça fait bizarre.
Donc le corps humain, évidemment, réagit très mal. Là aussi, il faut protéger des radiations. Donc le côté biologique, on n'envoie pas les astronautes pour qu'ils reviennent avec des cancers de la peau ou de leurs molécules internes à tire-larigot. Il faut surveiller tout. Enfin, tout change. La pression sanguine change. La masse musculaire fond puisqu'on fait plus d'efforts. Le système osseux se détériore. Enfin, voilà. Donc, il faut étudier tout ça. C'est le rôle des spationautes qui sont de véritables cobayes.
C'est ce que j'allais dire.
Qui sont bardés d'appareils.
Ouais.
Ils ont des Sophie Adonneau à tous les jours. Une heure ou une heure et demie, je me souviens plus, d'examens médicaux. C'est permanent. Ils en ont autant avant et ils en ont autant quand ils rentrent sur Terre pour voir comment le corps se réadapte. Alors tout ça, ça progresse.
J'espère.
Aujourd'hui, on les fait revenir dans un bien meilleur état qu'il y a 30 ans.
Ah ouais, d'accord.
Parce que l'entraînement est différent et on sait s'occuper d'eux bien avant. Je rappelle que rien que pour aller sur Mars, c'est pas 9 mois qu'il faut. De vie dans l'espace, c'est 3 ans minimum.
Voilà. Aller-retour ou juste l'aller ?
En tout. Mission aller-retour plus le travail sur place. On ne peut pas faire moins. Donc c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Mais voilà, donc les stations spatiales, ça sert aussi à développer toutes ces technologies, à faire avancer la médecine. Les IRM, par exemple, c'est qui nous servent énormément dans les hôpitaux sur Terre. C'est une technologie qui a été développée à partir des outils médicaux pour le spatial.
Ah, ouais.
Voilà, c'est des choses comme ça, on ne sait pas tout. Je vais prendre plus simple. Tout le monde connaît les panneaux solaires.
Ah bah oui, c'est vrai.
Bah oui, je dis aux enfants, je dis, vous connaissez les panneaux solaires ? Bah oui, depuis qu'on est né, on est né avec.
Ouais.
Ils me disent en primaire.
Ouais, bah oui,
ils sont nés avec.
C'est vrai, oui.
Nous, on n'est pas nés avec.
Non.
Non.
Mais non.
Et les panneaux solaires, ça vient d'où ? Ça vient du spatial. Et oui, on n'avait pas le choix.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
On n'avait pas le choix, il fallait bien avoir un système d'énergie dans l'espace.
Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait les premières montres à, tu sais, qui fonctionnaient au truc solaire, il y avait une petite cellule dessus.
Oui, c'est ça, bah, c'était issu de cette technologie-là.
Dans les années 80, je pense.
Voilà, capter l'énergie solaire pour alimenter des machines électriques dans l'espace. Enfin, voilà, on pourrait faire une liste comme ça assez importante, les couvertures de survie, le développement des ordinateurs, tout ça, c'est... L'espace, en tout cas, le domaine du spatial, contribue énormément à faire avancer tout ça. Et puis, crée aussi beaucoup d'emplois sur Terre, au passage.
Bah, oui. Et puis, autant que, voilà, vaut mieux faire ça que des...
Et nous, c'est vrai qu'on est dans une région qui est capitale du spatial, hein, de l'aéronautique et de l'astronautique.
Ah ouais, Toulouse, quoi, surtout, c'est la grande région.
Oui, enfin, pas que Toulouse, non, il y a beaucoup de personnes dans la région qui sont aussi sous-traitants des unités toulousaines. Et qui travaille directement aussi pour le spatial.
Bon, et a priori, c'est les filières d'avenir, hein, puisque même s'il y a des fluctuations dans les financements selon les décideurs, tout le monde continue d'investir dans ces domaines, plus que jamais, même j'ai envie de dire, avec de nouveaux acteurs, les Chinois, parce que là on était à ISS,
qui est
prévu pour tomber quand d'ailleurs, ISS ?
Alors l'ISS, on arrive au bout, hein. Normalement, enfin, la date initiale c'est 2030-2031.
Ah ouais, on y arrive, ouais.
Donc on arrive assez rapidement dessus.
Ouais.
Une fois de plus, donc, toutes ces nations, à l'ISS, je rappelle, c'est une station internationale, donc essentiellement, les Américains, évidemment, ont mis de l'argent là-dedans, mais l'Europe y participe plus qu'activement, puisqu'il y a un module européen à part entière. Sophie Adonneau a son module perso.
Vous ne rentrez pas, je suis chez moi.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Les Japonais aussi, Canadiens, qui participent activement. Donc tous ces gens-là, s'il n'y a pas de système de remplacement, vont se retrouver sans accès direct à l'espace.
Voilà.
Surtout que les Chinois, donc, comme tu disais, ont construit leur propre station.
C'est
en service depuis...
C'était
2022, mais après elle a été mise en service là, il y a moins de deux ans, donc voilà 2024.
J'ai encore pas vu l'image, ils sont peut-être en Chine, ça passe tous les jours à la télé, mais moi je l'ai pas encore vu là.
Ouais, non, de toute façon ils font tout en secret. Hein.
Oh, pas en secret.
Si.
Bah attends, elle est dans l'espace, toi, tu la vois.
Si, voilà, on la voit. Nous on voit un petit point blanc depuis la Terre. Hein.
Mais a priori ça marche bien.
Comme l'ISS, ça marche très bien.
Pas de soucis, ils sont combien dans leur...
Pareil, ils sont trois en permanence.
Ils sont trois, dis-donc.
Voilà, avec des équipages qui se relaient.
Ouais,
eux aussi ont l'objectif Lune, bien sûr. Hein,
ah bah eux, tu vas voir.
Voilà.
Alors tu vois, moi si ça se trouve, c'est la semaine prochaine. Hein. Hop, alors, on y est, mec, on y est.
Oui, voilà. Alors bon, les missions en interne, moi évidemment, je ne surveille pas ça, c'est pas mon quotidien. Hein, mais bien entendu, les agences spatiales, qu'elles soient civiles ou militaires, surveillent ça de très près. Donc eux sont au courant de tous les vols, de tous les essais, de choses comme ça.
Ouais.
Mais ils savent que les Chinois travaillent activement, donc c'est aussi, c'est la nouvelle course à l'espace. Avant c'était les Russes, maintenant chez les Chinois, les concurrents,
Tu m'étonnes.
Essentiellement des États-Unis, mais aussi de la coopération mondiale avec l'Europe, et le Japon et le Canada.
Mmh. Et nous, comment on va faire l'ISS, là, quand en 2030, quand il n'y aura pas Pablo pour nous dire qu'on va nous tomber sur la gueule, mais elle va tomber quand même. Donc on aura évacué, évidemment, hein. Mais on voudra quand même continuer d'envoyer des Américains, des Canadiens, des Français, des Japonais dans l'espace. On va louer aux Chinois ou qu'est-ce qu'on prévoit ?
Alors là, il y a plusieurs solutions. Alors louer aux Chinois, a priori, je pense que ça n'arrivera jamais.
Bah pourquoi ?
Parce que c'est déjà pas le cas et qu'ils ont bien annoncé la couleur dès le départ.
Ah bah non, ils veulent pas...
Non.
Ah.
Je pense qu'ils vont rester autonomes et qu'ils veulent pas partager leur technologie.
Oh, mais non.
C'est comme ça.
Faut leur demander déjà.
Faut s'y faire.
Faut leur demander. Déjà, faut leur demander, s'il vous plaît.
Donc justement, dans le futur, il y a notamment des projets de stations privées.
Aïe.
Bah, évidemment, toutes ces stations privées, je ne citerai pas le nom, mais que tout le monde connaît. Liés au spatial, qui sont déjà très investis dans les lanceurs de fusées, les capsules, même celles qui vont sur la Lune. Ces gens-là
privés.
Vont certainement pas se gêner pour construire.
2030-2032, c'est après-demain. Quoi. On doit déjà. Sinon, comment on va faire ?
Une station spatiale, il faut savoir qu'à partir de deux modules assemblés, on peut considérer que c'est une station spatiale.
Ah, ça, c'est vite fait.
Donc, c'est moins compliqué.
Ah, d'accord. Okay.
C'est moins compliqué.
D'accord.
On parlait des Chinois à l'instant avec leur station Tiangong.
Palais
céleste.
Eh ben, c'est exactement ça.
Ah, c'est bien.
Ah, c'est pour ça qu'il veut pas un palais.
C'est une petite station. De mémoire, je crois qu'il y a 4 modules pour 10 sur l'ISS.
Oh, attends, elle a 2 ans.
Ils l'ont assemblé en 2 ans.
Ah, d'accord.
L'ISS a été assemblé en 10 ans.
Au
total.
D'accord.
Donc, ce n'est pas du tout le même rapport au temps. Donc, on peut assembler une station spatiale relativement rapidement avec des moyens, bien entendu.
Mm-hmm.
Donc, il y a les stations privées. Il y a un vague projet, je dis vague projet, de russe.
Aïe, oui, non, ça... ah oui, c'est pas gagné.
Ils souhaiteraient.
Non plus, ça. Les mecs, il faut trouver des volontaires. Déjà.
Envoyer leur propre station.
Ah ouais, parce que là, ils ont des soucis. Hein.
Ouais, voilà.
Bon, et on puis,
enfin, après, il y a tellement de propagande dans le voilà dans le dans ce genre d'annonces qu'il faut rester très prudent. Les stations privées, évidemment.
Ça oui.
Ça, il y a des
on
chances.
Peut y croire.
Ça sera sous contrat certainement, notamment avec la NASA, qui est l'acteur incontournable mondial.
Ah non, qui fait plus rien.
Donc il y aura
qui...
toujours une porte ouverte, je pense, pour les astronautes des autres nations.
D'accord.
Simplement, y a des billets. Voilà, le billet risque de changer de tarif, hein, parce que quand on parle de tout ça, on dit qu'on voit Sophie Adonneau et ces gens-là. C'est pas gratuit, hein.
Ah bah non. Non, ils font pas de cadeaux. Hein.
Un siège pour l'espace en moyenne, c'est 60 millions de dollars.
Ah ouais.
Alors ça comprend tout, hein, entraînement.
Bah, là, le petit déjeuner, c'est pension complète.
C'est pension complète. Ouais, hein, ouais, voilà. Ouais. Même le ménage est fait. Mais... Donc voilà, il y a tous ces projets-là à suivre.
On va suivre. Hein.
Mais c'est voilà, ça fait partie du développement. Ne serait-ce que j'en terminerai là-dessus pour aller retourner vers la Lune. Pour des raisons économiques et pratiques, il est imaginé dans les missions donc futures, très proches, hein, je parle des 5 ans qui viennent là, justement de construire une petite station spatiale, mini station spatiale autour de la Lune.
Ah, j'ai entendu parler de ça. Ouais.
Voilà, qui permettrait de simplifier le voyage vers la Lune et l'alunissage lui-même.
Découpé en morceaux.
On aura en permanence un alunisseur qui sera accroché à cette petite station.
Pourquoi pas.
On aura juste besoin d'envoyer des astronautes avec donc une petite capsule, donc beaucoup moins chère, qui séjournerait une journée à bord de la station spatiale, qui monterait dans l'atterrisseur, qui partirait sur la Lune faire leur boulot, qui remonterait et après leur petite capsule. Ça simplifie énormément, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer 140 tonnes dans l'espace, qui coûte cher, il faudrait juste envoyer grosso modo une dizaine de tonnes. Donc c'est beaucoup plus simple.
C'est vrai que ça semble raisonnable.
Mais il faut construire une station orbitale à 384 000 km d'ici, et ça, c'est pas simple.
On va y arriver, Thierry.
Ouais, ça fait, en tout cas, ça fait avancer la technologie. On peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide.
On va y arriver.
Mais ça fait avancer la technologie. Et puis, on ne sait jamais ce que ça peut apporter sur Terre, toutes ces recherches. Là, on le sait a posteriori, notamment en biologie, en matériaux, en médecine. Tous les apports qu'il y a eu depuis les missions Apollo avec le spatial, il y a des retombées directes terrestres. Donc, on ne sait jamais ce que les futures missions nous apporteront. Et puis, pour nos lointains successeurs, peut-être de partir pour un voyage sans retour vers une nouvelle Terre. Mais ça...
On l'espère.
On l'espère.
Ouais, on espère. Voilà,
on l'espère pour eux. Nous, on va prendre soin de la nôtre en attendant.
Ouais, déjà, il y a du boulot. Très bien, merci beaucoup Thierry pour toute cette information, cette connaissance partagée autour de ces stations spatiales, donc deux actuellement au-dessus de nos têtes.
Oui, deux qu'on peut L'ISS. Voir d'ailleurs quand on passe nos belles soirées d'été dont on va parler maintenant.
Ouais.
C'est des petits points blancs brillants. Alors, une étoile filante, c'est une fraction de seconde.
Oh, là.
Voilà.
Ouais.
Par contre, si vous voyez une étoile se déplacer dans le ciel, mais pendant une bonne minute, vous pouvez la suivre à l'œil nu.
Pas trop vite.
Elle se déplace pas trop vite, finalement, parce qu'on peut la suivre pendant une bonne minute dans le ciel.
Ouais.
Et c'est une station spatiale.
Donc, tirez pas dessus.
Enfin, donc, il faut vous dire que ce petit point blanc, vous voyez passer, à l'intérieur, il y a des gens vivants qui sont dedans.
Et c'est pas des extraterrestres.
Alors pour les gens que ça intéresse, il y a des applications
pour suivre ça passe,
détecteur ISS, un truc comme ça s'appelle. Donc on peut télécharger ces applications gratuites.
Ah ouais, c'est bien ça.
Et on sait exactement dans quelle direction, de quelle heure à quelle heure.
Quand, qu'on passe pas des nuits blanches entières à attendre une station qui passe pas.
Exactement. Il suffit de se mettre une petite alarme. C'est ce que je fais lors des soirées.
Et tu regardes.
Quand je suis avec du... Moi, personnellement, ça m'arrive.
Ouais, tu fais
coucou. Et quand je fais des soirées avec du public, je ne manque pas de regarder.
Et c'est même surprise, tu ne leur dis pas, puis tu leur dis...
Je peux leur faire un petit tour de magie, voilà.
Bon, si, en tout cas, moi, je le fais. Non, mais toi, tu es un honnête homme. Tu ferais pas, tu fais pas des coups d'entourloupe. Mais moi, je le ferais. Regardez, je vais vous faire bouger un truc. Hop, et clac.
Alors, je vais tout avouer, je le fais, et après, je le ravoue.
Tiens, justement, ces séances d'observation, notamment, dont tu parles en... Nous, en parler dans cette dernière partie de l'émission sur CFM Rhodes, rendez-vous sous les étoiles. Thierry, on rappelle que tu es créateur et animateur du réseau Cap Étoile, qui propose tout un tas d'activités, notamment sur l'Aveyron et notamment pendant les beaux jours. Et là, ça y est, vu que les beaux jours sont là, j'imagine qu'il y a plusieurs rendez-vous ce mois de juin, surtout qu'il y a des choses à voir dans le ciel.
Ouais, ça va commencer à être sympa. Au niveau des soirées, je peux commencer par ça parce qu'il y a une belle soirée qui a lieu tous les ans qui s'appelle les soirées On the Moon Again. qui veulent dire sur la Lune, encore une fois.
Ouais.
Voilà, c'est un événement mondial qui a été créé pour les 50 ans justement du voyage vers la Lune.
Ça consiste en quoi ?
Alors ça consiste à faire observer gratuitement la Lune à tous les peuples de la Terre le même week-end partout sur Terre.
D'accord, alors bonne idée, mais j'ai envie de te dire, moi je l'ai vu hier, c'était pas la journée on the moon again.
Et non, mais là c'est simplement pour créer l'événement, pour que les gens, soit il y a une grosse publication autour de ça.
C'est un jour de pleine lune ou...
C'est un jour, alors non, surtout pas.
Ah bon ?
Non.
Ah, même pas.
La pleine lune, en fait, comme la lune est éclairée en totalité, tous les reliefs sont écrasés par l'éclairage du soleil, et on voit finalement très peu de choses.
Ah bon, d'accord.
Alors que toutes les phases, notamment de croissant et de quartier, qui sont plus favorables,
on voit mieux.
À l'endroit de la séparation jour-nuit, il y a des lumières, des ombres rasantes,
et ça
met tous les reliefs en avant, et on peut voir nettement les cratères, la profondeur, les
hauteurs
des montagnes.
Heureusement que t'es là, Thierry, quoi.
C'est magnifique.
Bah ouais, heureusement que t'es là pour moi.
Et la lune, c'est un spectacle sans cesse renouvelé, puisque même sur l'observatotélescope, tous les jours, vu qu'elle change de place, elle tourne autour de la Terre, donc elle change de forme.
Elle tourne même sur elle-même, mais on ne s'en rend pas compte.
Voilà, ce qu'on appelle les phases de la Lune.
Ouais.
Donc c'est un spectacle quotidien, on a des cartes très précises de la Lune aujourd'hui, donc on sait exactement ce qu'on observe, la taille d'un cratère, sa profondeur, la taille d'une montagne. On sait aujourd'hui, la Lune est parfaitement cartographiée. Donc on peut, de manière très claire, expliquer au public ce qu'on est en train d'observer et la taille réelle de ce qu'on est en train d'observer.
Et alors c'est quand, de Moon Again
Alors le week-end On the Moon Again à Rhodes sera le 19 juin, le vendredi 19 juin.
À Rhodes donc
Alors à Rhodes, place des Rutaines, la grande place devant le cinéma.
Ah ouais, d'accord, ok. Bon, très bien.
Alors c'est organisé par l'association locale Andromède 4A.
Ah, Castonnetoise.
Voilà, que tout le monde connaît très très bien. Et donc, Cap Étoile, évidemment, est partenaire pour un nombre d'actions. Hein.
D'accord.
On observe les étoiles ensemble dès qu'on le peut.
Ouais, ce sera à quelle heure ?
Et donc, le rendez-vous sera à partir de 21h30.
Ah bah forcément.
Il faut quand même attendre qu'il fasse suffisamment nuit pour pouvoir observer. Et à chaque fois, alors évidemment, c'est sous réserve de bonne météo.
Ah bah évidemment.
Ne vous déplacez pas si c'est couvert ou il pleut.
Ouais,
la soirée sera annulée.
Ouais.
Mais sinon, on se retrouve avec les copains d'Andromède sur la place des Rutaines.
Et tout le monde sort ses
avec 10 ou 12 télescopes à disposition.
Ah.
On amène tout le matériel.
D'accord.
Et donc là, c'est open bar.
Pour tout le monde, on peut venir mettre l'œil dans le machin, nous.
Exactement. D'accord. En plus, c'est chouette parce qu'il y a plein d'instruments différents.
D'accord. Parce que je vais vous dire, toi et Andromède 4A, au total, c'est donc vos deux entités. Vous avez un total de 12 lunettes.
Ah oui, tout le monde amène son télescope.
C'est qui la plus grosse ?
Paire des jumelles, petites lunettes, grosses lunettes, des télescopes de taille et de qualité différentes.
Ouais,
on voit aussi les différentes images.
Oui, donc 10 à 12 lunettes, il n'y aura pas de kilomètres de queue.
Ah oui, c'est très bien. Et je me souviens que la dernière, on a accueilli pratiquement 300 personnes qui étaient ravies. Pour beaucoup, c'était une surprise. Ils passaient là par hasard. Et d'autres sortaient du cinéma ou avant de rentrer au cinéma. C'est vraiment chouette. La municipalité fait l'effort d'éteindre toutes les lumières de la place pour un meilleur confort.
Oui, t'as raison.
Donc
important.
Ça, c'est super sympa.
Important.
Très important. Donc voilà, ça c'est un...
Et c'est jusqu'à quelle heure ?
On n'est pas trop pressé. Jusqu'à au moins minuit.
Super. Le vendredi 19 juin, donc.
Oui, tout à fait.
Esplanade des Rutaines avec Cap Étoile.
On va observer la Lune. Alors, évidemment, on ne va pas observer que la Lune.
Alors, il y a quoi ?
Puisqu'il y a encore quelques planètes, notamment Saturne et. Saturne, c'est au petit matin, mais enfin, là, on ne vous gardera pas jusqu'au petit matin. En soirée, c'est Vénus et Jupiter qui sont observables.
Là, pour ce mois de juin.
Pour ce mois de juin, oui,
et
tout à fait.
Notamment le 19.
Okay. Voilà, alors le 19, on pourra les observer. Et puis, si vous les observez tout seul, il y a deux dates qui sont vraiment super sympas.
Ouais.
Où il y a ce qu'on appelle, je vous en parle tous les mois quand je peux, c'est ce qu'on appelle les rapprochements. C'est-à-dire
qu'il
y a deux planètes ou la Lune et une planète qui se rassemblent dans le ciel, comme ça, pour un jour ou deux. Et ça permet de les repérer beaucoup plus facilement dans le ciel. Sans avoir forcément les cartes que je tiens malgré tout à disposition, comme d'habitude, sur le site www.capétoile.fr.
Ouais.
Alors, le premier rapprochement vraiment sympa, ça sera du 9 au 11 juin, donc pendant 3 jours, au coucher du soleil. On ne peut pas faire plus simple. On regarde le soleil se coucher, donc vers l'ouest. Et puis, dès que la nuit apparaît, il y a un premier point extrêmement brillant qui apparaît, tout seul, dans le ciel encore bleu, presque claire. C'est Vénus, hein, voilà, extrêmement brillante, notre voisine à 100 millions de kilomètres d'ici, donc juste à côté. Et à cette date-là, elle sera en gros collée à Jupiter.
D'accord, la plus grosse planète du système solaire.
Absolument. Voilà, ouf. Hein. Alors c'est assez marrant d'ailleurs de comparer parce que elles vont être l'une à côté de l'autre et quand on a un peu d'éléments en tête, ce que je vous donne maintenant, c'est intéressant parce que Vénus, c'est grosso modo la taille de la Terre. Donc faut aussi imaginer que si on était sur Vénus, on verrait la Terre pas plus grosse que ce point brillant. Donc ça sera le point brillant qui sera le plus en haut et le point brillant qui sera le plus en bas, c'est Jupiter qui elle est 10 fois plus grande en diamètre que Vénus et la Terre.
Mais qui est au moins 10 fois plus loin.
Mais qui est extrêmement éloigné.
Donc, au total, ça reste 2 points brillants.
Ça reste 2 points brillants. Les deux, d'ailleurs, les deux planètes les plus brillantes du ciel, visibles dans le ciel, donc c'est intéressant.
Ah ouais, c'est les deux plus brillantes.
Ouais, c'est les deux plus brillantes. D'accord, ouais. D'accord. Une par sa taille et l'autre par sa proximité et son atmosphère réfléchissante qui est Vénus.
Ok, c'est bien. C'est
donc
bien.
Alors, ça, voilà, vraiment super intéressant.
Ouais, du 9,
très beau.
9 au 11 juin.
Du 9 au 11 juin, okay. Hein, donc vraiment tout début de mois. Et puis vers le 17, donc juste avant l'observation de la Lune. Ça sera presque encore le cas pour la soirée on the moon, donc on pourra le montrer au public. Mmh. Là, c'est Vénus, ce sera visible, mais collé à un très fin croissant de lune. Hein, c'est pour ça que la soirée on the moon a lieu 2 jours plus tard pour avoir un croissant de lune beaucoup plus gros. Mmh. Donc on montrera évidemment, la lune se sera éloignée de Vénus. Mmh. Mais le 17, donc on verra Vénus et un très fin croissant. C'est intéressant parce que les premiers croissants ne sont pas toujours faciles à observer. Dans les lueurs du ciel, souvent c'est un cil blanc comme ça posé dans le ciel.
Ouais, je suis pas sûr de
et on l'observe pas toujours. Images, là, ça sera génial parce que comme il y aura Vénus à côté, qui est le premier point brillant à apparaître,
ça va éclairer un peu le truc.
La Lune sera juste à côté, donc on peut l'observer. N'hésitez pas, comme d'habitude,
l'une
je vous rappelle,
peut servir à repérer l'autre.
À beaucoup de jumelles, comme ça, on peut observer ce fin croissant lunaire. Et Jupiter sera toujours en dessous. Hein.
Dans le coin.
Elle apparaîtra juste un petit peu après.
D'accord.
Mais elle sera juste en dessous, plus proche de l'horizon que Vénus. Toujours en direction de l'ouest.
Le 17 juin.
Ouais. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, juste une petite parenthèse, parce que quand il y a une planète et la Lune comme ça qui sont collées vraiment l'une à côté de l'autre, tout bouge dans l'univers. Vénus tourne autour du Soleil, la Lune autour de la Terre.
Arrête, tu vas me donner mal au cœur.
Et comme la Lune est beaucoup plus proche de nous que Vénus, on peut, grâce à Vénus, voir son déplacement en une heure de temps. Quand vous l'observez en début de soirée, vous aurez la Lune qui sera légèrement à droite de Vénus, très légèrement. Et une heure plus tard, elle sera légèrement à gauche.
Ah oui, non, mais la Lune, moi, tu sais, des fois, quand je vais à un endroit, je la vois. Puis après, quand je reviens 2 heures plus tard, je la vois, mais pas au même endroit.
C'est ça, mais c'est parce que toi aussi, t'as changé de place. Là, sans changer de place, on voit la Lune. On peut se rendre compte de la révolution de la Lune autour de la Terre à l'œil nu. C'est pas si souvent.
Un dernier mot, peut-être, avec toi,
ouais.
Thierry, bien sûr.
Ouais, un dernier mot pour quelque chose d'important. Bah, vous savez qu'il y a un joli planétarium qui est à Salles-la-Source, à côté de, anciennement, le musée des métiers, voilà, qui a malheureusement fermé.
Oui.
Et qui avait entraîné la fermeture provisoire du planétarium, puisqu'il était dans l'enceinte du musée. Voilà, donc ça a posé des problèmes logistiques.
Ah bah oui.
Donc ce planétarium qui est géré par toujours l'association Andromède 4A, hein, qui a délégation par le département pour gérer le planétarium qui lui appartient, a lancé une grande opération à laquelle Cap Étoile participe pour réouvrir ce planétarium.
Ah bah bonne nouvelle ça.
Et ça a fonctionné.
Ah bah très bonne nouvelle. Mais alors, c'est-à-dire, maintenant il est où ce planétarium?
Alors il n'a absolument pas changé de place, rien n'a bougé.
Il est toujours dans le musée qui a pu?
Toujours, parce qu'il était dans une petite salle à part.
Ils ont laissé une salle ouverte.
Juste à l'entrée, donc cette salle est restée ouverte, puisque heureusement c'est un planétarium fixe dans lequel on peut s'asseoir, qui est très confortable.
C'est pas dans une cabinette que tu vas balader le planétarium.
Exactement, ouais. Celui-là en tout cas non.
Non, d'accord, donc là il est rouvert.
Alors ça y est, il est réouvert depuis quelques jours, l'ouverture a lieu officiel le 31 mai.
Ouais.
Et donc il va y avoir plein de séances, alors on va pas toutes les décrire maintenant, je mettrai l'affiche sur le site de Cap Étoile et aussi
capétoile.fr.
Mais après voilà, il y a une multitude de dates qui sont prévues. Il y en a 8 d'ici le mois d'août.
D'accord.
Il y en a une le 7 juin, une le 14 juin, 16 juillet, 23 juillet.
D'accord.
Vous avez toutes ces informations sur l'affiche que vous envoyez, il y aura un QR code.
Ouais.
Et puis sur le site d'Andromède 4A, bien entendu, avec des réservations obligatoires.
Ah oui, j'imagine.
Très important, les places sont limitées pour des raisons de sécurité évidentes.
Ouais.
Voilà, et puis gentiment...
Parce que ça, ça veut dire que même par temps couvert, on pourra voir le ciel.
Ah bah là, c'est permanent.
Voilà, c'est l'avantage du planétarium.
Voilà, donc gentiment, oui. Andromède a demandé à Cap Étoile de participer à l'animation de certaines séances, donc que j'animerai moi, personnellement.
Eh bah, très bien, ça.
Voilà, notamment le 14 juin, j'animerai la première à titre personnel. Pour savoir, c'est un planétarium numérique,
ouais.
Donc c'est quand même très intéressant, puisqu'on on peut projeter des films, les images sont animées, on peut faire des marches arrière dans l'espace.
Ah, d'accord.
Je pourrais vous emmener sur la Lune, sur Mars... assez facilement et plus facilement qu'avec une station spatiale actuelle.
Ce que je veux dire, voilà, avant d'y aller pour de bon, là, ce coup-ci, on peut y aller, mais bon, voilà, plus simplement.
Voilà.
Et à coup sûr.
Donc, toutes les infos seront en ligne sur les réseaux sociaux, sur les sites. Je mettrai tous les liens pour faire les réservations et on vous attend nombreux pour relancer ce très bel endroit, très bien équipé, très professionnel. On vous attendra avec plaisir.
Planétarium, donc à Salles-la-Source. Merci Thierry. Nous, on va se retrouver le mois prochain.
Oui.
Pour une nouvelle émission, évidemment.
Bah oui, le spécial été.
Là aussi, il va y avoir des animations.
Du mois
des
prochain, voilà, il va y avoir beaucoup de choses, des animations donc, que j'annoncerai, effectivement, avec des soirées d'observation de Cap Étoile.
Ouais.
Et puis, on va faire un spécial éclipse totale de soleil, quand même.
Ah oui, c'est vrai, j'ai vu
ça. C'est l'événement. Même si c'est pas total ici, il fera vraiment, vraiment presque nuit.
Ouais.
Un peu partout, donc je donnerai toutes les informations.
Et ça sera quand
les horaires le 12 août.
Moi, je serai à Paris, je crois.
Paris, tu iras droit aussi.
Ah ok, super.
Voilà, donc j'essaierai d'ici là d'avoir un maximum d'informations, de vous expliquer le fonctionnement avec les lunettes,
avec les lunettes.
Où est-ce qu'on les trouve ça dépend où tu es.
Ah bon ?
Si on se rend sous la ligne de totalité de l'éclipse, où Cap Étoile sera pendant 1 minute 30, on pourra enlever les lunettes parce que le soleil sera entièrement masqué par la lune.
T'es sûr ?
Oui.
Je te fais confiance.
J'expliquerai tout ça en détail.
Tu expliqueras tout ça le mois prochain.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Thierry.
Merci. Au revoir.